Il est 19h sur Bac FM 106.1. Vous écoutez Prévence, l'émission où on parle de plein de sujets liés à la santé, le bien-être, le handicap, tout en essayant d'enlever toute l'anxiété autour de ces sujets. Levez les tabous pour mieux en parler. Connaissez-vous les troubles 10, chers auditeurs? Allez, il y a à boire et à manger là-bas, il y a les dysorthographiques pour l'orthographe, ironique au passage que ce mot soit si dur à orthographier, la dyscalculie pour les chiffres, la dyspraxie pour la motricité, et j'en passe et des meilleurs. Selon la Fédération Française des 10, c'est 6 à 8% des enfants qui sont touchés par ces dysfonctionnements, mais est-ce que c'est vraiment eux qui dysfonctionnent? Est-ce que c'est pas un système scolaire opaque et inadapté au moindre changement qui cause pour ces enfants un véritable en faire, et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je laisse cette question en suspens pour terminer mon édito déjà bien trop long. J'ai le plaisir d'avoir à mon micro Laura Collin, ergothérapeute et membre de Pluradis, une asso reconnue d'intérêt général qui se concentre sur les troubles neurodéveloppementaux chez les enfants. Salut Laura.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
Alors, merci à vous.
Pour commencer, est-ce que tu peux un peu nous présenter ton métier d'ergothérapeute? Tout le monde a déjà plus ou moins entendu ce nom de profession, mais peut-être que les gens ne situent pas tout à fait ce que c'est.
Alors, l'ergothérapie, c'est une profession assez récente qui a pour but d'évaluer toutes les difficultés, toutes les particularités dans les activités de la vie quotidienne d'une personne. Donc, ça va de la naissance aux soins palliatifs pour qu'on puisse derrière soit réadapter, soit rééduquer, soit réinsérer la personne pour qu'elle puisse réaliser au mieux et au plus proche, entre guillemets, de la normalité, les activités qui lui tiennent à cœur.
Tu es aussi membre de Pluradis. Est-ce que tu peux un peu nous présenter ce que tu fais dans l'asso, comment tu es arrivée là-bas?
Alors, moi, je suis arrivée là-bas en tout début de carrière professionnelle pour pouvoir participer à tout ce qui est diagnostic des enfants que Pluradis accompagne, mais aussi avec tout ce qu'ils ont derrière, c'est-à-dire les parcours d'accompagnement des familles, et aussi en tant que formatrice pour pouvoir sensibiliser le grand public au niveau des TND.
Donc TND, trouble du neurodéveloppement, j'imagine?
Oui, tout à fait. Trouble du neurodéveloppement, la nouvelle catégorie de tous les troubles 10, dyslexie, dysorthographie, etc.
J'ai cru comprendre, en faisant des petites recherches, il y en avait 6 actuellement des troubles 10?
Alors, il y en a 6 de reconnus. Maintenant, ça s'appelle plus dyslexie, c'est les troubles spécifiques des apprentissages qui regroupent la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie. On a le trouble du spectre de l'autisme. On a le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. Les troubles développementaux de la coordination, ancien terme, c'était la dyspraxie. Et le trouble de la communication, dysphasie. Et on a tout ce qui est handicap intellectuel également.
Ok, et alors du coup, Pluradis, ils accompagnent les gens qui sont touchés par ça, en fait?
Ils accompagnent principalement les enfants jusqu'à 21 ans. Qui souffrent de ces troubles-là dans leur quotidien, et ils les accompagnent effectivement dans leur scolarité, dans leur vie personnelle, pour qu'ils puissent s'épanouir au mieux.
La scolarité, c'est tout un sujet pour les gens qui ont des troubles du neurodéveloppement. À quel âge on repère le plus souvent ces troubles? Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte?
Les signaux, ils sont assez variables en fonction du trouble spécifique. Il y a souvent des repérages au niveau des décompensations vers l'entrée au collège ou vers le milieu du collège. Et sinon, après, tout ce qui est signaux d'alerte, pour tout ce qui est dysorthographie, il y a une difficulté à apprendre l'orthographe et à généraliser les apprentissages. Tout ce qui est dyslexique, plutôt la lecture, dyscalculique, plutôt tout ce qui est représentation du nombre, etc. Tout ce qui est troubles moteurs, ça va être des enfants décrits comme maladroits. Dysphasie, ça va être des enfants qui vont avoir du mal à s'exprimer ou à comprendre ce qu'on leur dit. Ils sont assez discrets, ces enfants-là. Tout ce qui est handicap intellectuel, ils vont avoir des difficultés dans le raisonnement. Ils vont avoir aussi des difficultés au niveau du QI, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une intelligence un petit peu plus basse que la moyenne. Alors, il y a différents degrés de sévérité. Tout ce qui est TDA, ça va être une hyperactivité, par exemple. Pour tout ce qui est TDA, ça va être des difficultés attentionnelles avec des enfants qui peuvent être décrits comme impulsifs, parfois décrits dans la lune avec un syndrome de la mouche qui vole. Dès qu'il y a un bruit ou un mouvement, c'est des enfants qu'on va perdre au niveau attentionnel. Et tout ce qui est trouble du spectre de l'autisme, où là, le repérage va pouvoir se faire avec des enfants qui vont avoir des difficultés pour pouvoir comprendre ce que l'autre a envie de faire, des difficultés sensorielles, des comportements un peu répétitifs et stéréotypés, mais aussi des difficultés dans le langage.
Est-ce qu'on, y a un cliché qui revient beaucoup, c'est est-ce qu'on est avec ou est-ce que c'est quelque chose qui se développe?
Alors, les TND, c'est un trouble du neurodéveloppement, donc on naît avec et on meurt avec.
On meurt
On va
avec.
apprendre à le compenser.
Un autre cliché qui revient, c'est un problème d'intelligence ou d'un problème de fonctionnement. Il y a des professeurs hein, qui disent ça, les témoignages sont pour ainsi dire multiples et nombreux. Pour partir sur des bonnes bases, en fait, c'est quoi un trouble dit? C'est pas du tout un problème d'intelligence.
Non, c'est pas un problème d'intelligence, c'est vraiment au niveau cérébral où le développement est plutôt atypique. Certains vont avoir des grosses difficultés qui se rapprochent plutôt d'une incapacité totale et d'autres qui vont avoir un petit trouble et qui vont être proches du fonctionnement normal, mais au détriment du coût énergétique, du coût musculaire ou du coût cognitif que ça leur demande.
Tu es ergothérapeute, je l'ai dit tout à l'heure, je suis certain que des histoires de gamins ou de gamines mal accompagnés en milieu scolaire, tu en as entendu, vu beaucoup. Comment diable expliquer que ce genre de situation en 2026, est-ce que tu as l'impression que ça va mieux qu'avant ou pas? Moi j'ai trouvé des chiffres assez édifiants. Hein.
Les enfants quand ils sont accompagnés, on voit une évolution. Par contre, certains enfants, quand ils arrivent dans nos bureaux pour les premières fois, c'est vrai qu'ils ont un parcours de vie qui est assez atypique et assez douloureux pour beaucoup, avec une souffrance réelle hein, par les enseignants, parce que le trouble pourtant bien connu du public est peu sensibilisé au niveau de l'éducation nationale, alors que ce soit les écoles privées avec ou sans contrat, ou les écoles publiques, les enseignants ne sont pas tous sensibilisés et n'y prêtent pas tous le même intérêt pour aider les enfants. Donc c'est vrai que le parcours de vie est assez, pour certains, catastrophique avec ça.
Je te parlais de chiffres tout à l'heure, hein, sur l'ensemble des élèves victimes de harcèlement. Il y en a 6 sur 10 qui sont porteurs du trouble neurodéveloppemental, dont les troubles 10 font partie. Santé mentale, environ 13% des enfants de 6 à 11 ans présentent un trouble probable de la santé mentale, incluant l'anxiété et la dépression. Un taux qui grimpe chez les élèves en difficulté d'apprentissage. Ma question, elle est, est-ce que, à ton avis, ta vision d'ergothérapeute, l'école telle qu'elle est aujourd'hui est adaptée au mieux pour les gens qui ont un trouble du neurodéveloppement?
Alors l'école en tant que telle, comme on l'entend, elle n'est pas toujours adaptée à ces troubles du neurodéveloppement et aux besoins des enfants qu'elle accompagne. Par contre, certains enseignants font des choses magiques et adaptent au mieux l'école pour rendre leur quotidien plus facile, moins fatigant. Mais effectivement, il y a encore un gros travail à faire.
Parce qu'on a l'impression qu'il y a un petit côté double peine, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le côté déjà neurodéveloppement qui n'est pas facile à gérer, et en plus, il y a des soucis de santé mentale, de harcèlement qui vont avec.
Oui, c'est vraiment compliqué pour les enfants et les accompagnants, donc que ce soit les familles ou les professionnels de santé, on est confronté à de plus en plus d'enfants souffrant de harcèlement, et pour certains, passant malheureusement à l'acte en tentant de se suicider.
Tout à l'heure, tu soulignais le travail de professeurs qui font un travail magnifique et c'était effectivement important de le souligner, même si j'ai l'impression que c'est plus du cas par cas que quelque chose de systémique.
Effectivement, c'est plutôt du cas par cas avec principalement des enseignants qui sont soit confrontés dans leur vie personnelle, soit parce qu'ils ont rencontré un enfant qui leur a donné ce déclic-là. Mais à chaque fois, les échanges sont assez unanimes avec soit une confrontation dans leur sphère personnelle, soit parce qu'ils sont tombés sur un enfant les questionnant vraiment et cherchant à mettre en place au mieux pour adapter et s'apercevant que finalement, beaucoup d'enfants étaient concernés.
Alors, quel est le parcours classique pour obtenir un diagnostic et une prise en charge? Qui consulter? Dans quel ordre? Sur quel délai? C'est un peu compliqué.
C'est effectivement un petit peu compliqué. Aujourd'hui, on a les plateformes de coordination et d'orientation, les PCO, qui accompagnent les enfants jusqu'à 11 ans. Alors, pour le coup, voilà, c'est la première étape à franchir ou alors de faire les démarches de leur côté au niveau libéral. Mais il faut avoir un médecin qui coordonne le parcours puisque nombreux professionnels de santé ne peuvent pas poser le diagnostic. Il faut que ce soit fait par un médecin.
Concrètement, en tant que ergothérapeute, sur quoi tu travailles avec un enfant 10 au quotidien?
Alors les enfants 10, ça va être variable. Pour ceux qui ont des troubles moteurs, on va les accompagner au mieux pour qu'ils puissent développer un petit peu cette motricité. Typiquement, j'ai une louloute, elle n'arrive pas du tout à faire de la corde à sauter. Notre objectif, c'est de pouvoir faire de la corde à sauter pour être inclus dans la cour de récréation. Aujourd'hui, elle y arrive de mieux en mieux, donc c'est une grande victoire pour elle. Tout ce qui est trouble dysorthographie ou dyslexie, ça va être l'outil informatique pour compenser aussi au mieux leurs difficultés et qu'ils soient autonomes un maximum possible dans les apprentissages. Tout ce qui est dyscalculique, ça va être d'accompagner par rapport au quotidien la gestion de l'argent, comment créer des adaptations à domicile pour pouvoir faire des recettes. Ça va être assez variable. Tout ce qui est dysphasie, par exemple, on va les accompagner au mieux pour qu'ils puissent bénéficier d'outils de communication alternative quand la dysphasie est massive. Donc c'est la CAA, ou même si d'ailleurs elle n'est pas massive, on propose des outils de communication alternative, on leur propose des logiciels informatiques pour qu'ils puissent s'exprimer et comprendre davantage. Et tout ce qui est trouble du spectre de l'autisme, on va travailler tout ce qui est la sphère sensorielle qu'on néglige pas non plus dans les TND puisque tous les TND sont impactés au niveau sensoriel. Mais au trouble du spectre de l'autisme, tout ce qui est du coup sensoriel et activité de la vie quotidienne.
Et évidemment, on salue cette petite qui arrive à faire de la corde à sauter, c'est génial. Est-ce qu'il y a des aménagements scolaires qui font le plus la différence pour un élève 10? Alors on parle beaucoup du tiers-temps, il y en a qui peuvent pas faire le tiers-temps, alors du coup ils enlèvent les questions. Est-ce que il y a des outils numériques particuliers?
Alors les adaptations, elles sont vraiment au cas par cas. Il y a certaines adaptations qui vont être bénéfiques à un jeune et à l'inverse d'autres non. Donc c'est vraiment au cas par cas en fonction des difficultés et c'est surtout en accord avec le jeune puisque derrière, malheureusement, il faut qu'il en assume aussi les conséquences d'être différent de l'autre en ayant ses adaptations, même si on le sait tous qu'on est tous différents les uns des autres. Et c'est ce qui fait notre richesse.
C'est ce qui fait que l'humanité est parfois chouette. Est-ce que le regard des autres élèves et des adultes ont aussi un enjeu? Comment on lutte contre cette stigmatisation?
L'enjeu, il est massif parce que beaucoup regardent les enfants en leur disant « Mais toi, c'est pas normal, tu fais pas les dictées jusqu'au bout. Toi, c'est pas normal, la maîtresse, elle te laisse pas écrire. » Alors, la chose qu'on propose à faire et qui montre des résultats plutôt positifs, c'est de se rendre en classe sans dire pour quel enfant et d'expliquer qu'est-ce que les TND. Il y a beaucoup d'établissements scolaires qui demandent maintenant des sensibilisations, par exemple des collèges, notamment les classes de 5e pour les semaines du handicap. Et je trouve ça intéressant parce que les enfants comprennent enfin, en étant mis dans la peau des jeunes avec TND, ce qu'ils vivent au quotidien et ils s'aperçoivent que finalement une petite phrase comme « t'es nul », bah finalement ça peut porter à beaucoup pour un enfant souffrant de TND avec une connotation qui est tout autre derrière.
Pour les parents, c'est souvent un choc. Est-ce que tu as un conseil quand on vient d'apprendre que son enfant est 10, comment on lui en parle, qu'est-ce qui est possible?
Pour le coup, les enfants, quand ils viennent d'apprendre qu'ils ont un TND, on aime bien en parler aussi avec les parents et l'enfant, expliquer qu'effectivement, il y a des difficultés, mais il n'y a pas que des difficultés et que derrière, c'est un loulou qui est extraordinaire, qui a des compétences, des facultés autres et qu'il va falloir qu'on lui apprenne à s'en servir au bon moment pour compenser ses difficultés et que surtout, il faut qu'il garde espoir pour réussir parce qu'un TND n'empêche en rien de réussir sa vie professionnelle et sa vie scolaire.
Il y a plein d'outils numériques maintenant et l'IA qui peuvent peut-être aider. Moi-même, je suis dyspraxique, dyslexique et dysorthographique et je me rappelle que Word 2007 à l'époque était parfois limité. J'aurais adoré avoir ChatGPT pour corriger efficacement les textes. Est-ce que c'est aussi des outils que tu montres, soit toi, les nouveaux outils à base d'IA ou autres d'ailleurs?
Oui, alors c'est des outils, pareil, on adapte en fonction de la problématique et de la demande de la famille. Mais effectivement, maintenant, Word propose des extensions qui sont gratuites et qui permettent de faire des choses exceptionnelles, comme d'autres packs, comme LibreOffice, par exemple, des logiciels PDF. Et effectivement, on apprend de plus en plus aussi aux jeunes à servir de l'IA en bonne attention, parce que l'IA, ça peut être aussi un danger, il faut pas se perdre dedans, mais on leur apprend à l'utiliser à bon escient pour qu'ils puissent être bénéfiques pour eux et qu'ils puissent aussi compenser leurs difficultés avec ça.
Concrètement, comment les familles peuvent vous contacter et être orientées vers les bonnes structures?
Alors ça, c'est assez compliqué. On a un annuaire professionnel disponible sur Internet qui regroupe toutes les spécialités et toutes les professions avec tous les différents noms. Après, pour être contacté, c'est soit par l'intermédiaire de structures ou de réseaux comme la PCO ou Pluradis, ou sinon après, les parents, ils nous appellent de leur propre initiative.
Pour finir, si un élève 10 nous écoute ou quelqu'un qui a un TND de façon plus générale et qu'il se sent nul ou en retard, parce que c'est souvent ça les témoignages qui reviennent, est-ce que tu as un message à leur faire passer ?
Il faut toujours garder espoir et effectivement certaines choses peuvent être compliquées, mais il faut pas oublier tout ce qui est accompli à côté qui leur permet de réussir aujourd'hui et surtout de ne pas lâcher, de croire en leurs rêves parce que au fond ils en sont largement capables.
Merci infiniment Laura d'avoir répondu à
Merci
mes questions.
À toi.
Je rappelle que tu es ergothérapeute et membre de l'association Pluradis. Merci à vous chers auditeurs de nous avoir suivis. On arrive tranquillement à la fin de l'émission. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est @BacFM sur Insta et Facebook. Et d'ici là, bonne soirée avec la musique rock et metal.